Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL dimanche soir, Philippe Robuchon. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Peggy, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron va-t-il, oui ou non, organiser un référendum le jour des élections européennes? Techniquement, on sait que c'est difficile car les délais sont très courts, mais des imprimeurs et des papetiers auraient déjà été contactés au cas où. Le 26 mai, commençons par parler de l'Europe, a dit au grand jury Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, dont on dit qu'elle pourrait être tête de liste pour En Marche. En fait, il semble qu'au sein de l'exécutif, tout le monde ne soit pas d'accord sur ce référendum. On fera le point avec Vincent Derosier du service politique de RTL. Dans l'actualité de ce dimanche également, plusieurs milliers de foyers encore privés d'électricité au lendemain des importantes chutes de neige sur le Massif central et dans les Alpes. Dans ce journal, reportage à Comel, une petite commune de l'Isère. Au Venezuela, c'est ce soir que prend fin l'ultimatum de l'Union européenne pour le président Maduro. L'Europe soutiendra son adversaire si des élections ne sont pas organisées. Menace perçue sur place comme un atout par les partisans de Juan Guaido. Sport, football, 23e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Nîmes et Montpellier ont fait match nul un partout. Match viril sur le terrain, mais pas d'incident dans les tribunes. Ce soir, autre choc de cette journée. 21h, Lyon reçoit le Paris Saint-Germain. 16 points d'écart entre les deux équipes, mais une rivalité intacte, nous dira Willy Mézonas. Les courses, Quintet Plus, cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 12, le 9, le 10, le 13 et le 11. À 18h20, l'invité de ce journal, Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne. On reviendra avec lui sur le scandale du bœuf polonais. Les éleveurs français à qui on a demandé de gros efforts de transparence sont en colère. Au grand jury d'ailleurs, Nathalie Loiseau a demandé la création d'une force européenne d'inspection sanitaire. Le temps, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La tendance encore bien froid demain.
Oui, c'est vrai qu'il va faire très froid, de fortes gelées demain matin, moins 7 à Embrun, moins 6 à Rodez et une nouvelle dégradation qui arrive dans la foulée, mais c'est la dernière journée hivernale pour cette semaine.
Prévision détaillée dans un quart d'heure, Valérie.
RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Avant de développer ces titres, retour sur une affaire dont RTL vous a parlé cette semaine. L'histoire de cette adolescente marseillaise de 14 ans, retrouvée à 1000 km de chez elle, près d'Hazebrouck, après 24 jours de disparition. On l'a retrouvée enfermée dans le grenier d'un homme de 29 ans qui l'avait contacté par Internet. Un homme qui, manifestement, n'en était pas à son coup d'essai. Scali, c'est le prénom de cette jeune fille, a retrouvé sa famille dans le sud de la France. On imagine l'angoisse de sa mère restée sans nouvelles pendant 3 semaines. Sa mère, c'est Magali. Et pour la première fois, elle a accepté de parler aujourd'hui. Document RTL signé Mickaël Lefebvre.
Chercher sa fille pendant 23 jours, c'est terrible. Ça brise un cœur, ça change une vie. Ma vie s'est complètement arrêtée à partir du moment où Cali est partie. Je m'interdisais de pleurer ou de craquer parce que je voulais garder toujours l'espoir. Et je voulais pas flancher justement pour pas amener quelque chose de négatif à tout ça. Et voilà, j'y croyais jusqu'au bout. Cali, elle avait à ce moment-là des petits soucis d'ado comme tous les ados. Donc il est arrivé vraiment au moment où Cali, elle en avait marre de l'école, marre de ses amis, marre de sa mère comme tous les ados. Enfin, pour partir comme ça sans un mot, sans rien, avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ouais, il a dû pousser le bouchon assez loin. Et pour reconstruire quelque chose avec ma fille, il faut d'abord qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Elle a très envie de parler avec la première victime. Et c'est elle qui va réussir à lui ouvrir les yeux. J'aimerais que la justice m'entende et condamne un peu plus ce genre de perversité. Tous ces pédophiles, dès la première fois. On ne doit pas pouvoir laisser quelqu'un comme ça, dehors, en liberté. C'est trop dangereux.
Magali, la mère de l'adolescente disparue à Marseille. Témoignage exclusif au micro RTL de Mickaël Lefebvre. Valérie Quintin vous le disait dans les titres, plus aucun département n'est ce soir en vigilance orange. À la neige, au verglas, le redout a contribué à l'amélioration de la situation. Au lendemain de très importantes chutes de neige sur le Massif central et sur les Alpes, l'autoroute A48 où des centaines d'automobilistes s'étaient retrouvés bloqués entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble a été rouverte tôt ce matin. 15 000 foyers étaient privés d'électricité. Ce soir, il en reste environ 3 000 en Haute-Savoie, 500 en Savoie et 200 en Isère. L'Isère où Peggy Liaudenot a vécu la journée avec les habitants de Comel.
Depuis 4h30 ce matin, les 380 habitations de Comel en Isère sont plongées dans le noir. Les habitants doivent donc s'organiser comme Adrien.
On a des parents qui, heureusement, habitent pas loin. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge, donc on a pu aller avec ma femme manger chez eux et attendre. Et puis là, on espère que ça revienne d'ici ce soir, mais c'est compliqué, surtout que notre maison est toute électrique. Là, on est dans le noir complet et on peut rien ouvrir et rien faire chauffer.
Quelques maisons plus loin, Catherine passe le temps avec son mari et des amis. Elle joue aux cartes, mais les conditions commencent à être difficiles.
C'est vrai que là, on commence vraiment à avoir froid. On met les gilets, on met les écharpes. Ouais, entre 12 et 14, là, il fait dans la maison. Ouais.
La faute à 2 poteaux électriques qui ont cédé sous le poids de la neige. Sébastien Bernard, technicien Enedis.
C'est assez compliqué. La neige est tombée en abondance. Elle est lourde, pleine d'eau. Elle a tendance à coller sur tous les conducteurs. Ça fait du poids et les armements cèdent avec le temps, quoi. Sur le secteur Comelle, Saint-Jean-de-Bournay, apparemment, il y a pas mal de dégâts. Objectif, ce soir, tout le monde réalimenté. Ouais. On est à pied d'œuvre, on fait au plus vite.
Plus de 80 agents sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour rétablir l'électricité partout dans le département.
Reportage Peggy Liaudenot dans l'Isère. C'est la nouvelle question donc qui agite l'exécutif. Faut-il, pour répondre à la crise des Gilets jaunes, organiser un référendum à questions multiples ? Emmanuel Macron n'a pas tranché, mais selon plusieurs ministres, il serait prêt à dégainer cette arme politique. Pourquoi pas le dimanche 26 mai, jour des élections européennes ? Ces derniers jours, la réponse penchait plutôt vers le non, notamment pour des questions techniques, pour une histoire de délai trop court. Mais ce matin, le journal du dimanche a publié des infos selon lesquelles l'hypothèse du 26 mai tient toujours. Le bureau des élections au ministère de l'Intérieur aurait déjà pris contact avec des imprimeurs et des papetiers afin d'être prêt le jour J. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
On va revenir dans un instant sur ce casse-tête. Auparavant, on va écouter ensemble ce qu'a dit au grand jury sur RTL Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes.
Pour le moment, sa décision n'est pas prise. Et ce que je dis en tant que ministre des Affaires européennes, c'est que je souhaite qu'on parle d'Europe le 26 mai parce qu'il y a des enjeux majeurs. Et que ces enjeux, il faut en parler, il faut les traiter. Et je le dis aussi à nos adversaires politiques qui aujourd'hui parlent de référendum anti-Macron, ou mettent à la tête de leur liste aux européennes des gens qui ne s'intéressent pas à l'Europe.
On va y venir.
Je trouve que c'est se moquer des
Français.
Mais à vous
entendre, on a l'impression que vous n'êtes pas emballé par cette affaire de référendum en même temps que les européennes.
Je vous dis qu'il est trop tôt pour en parler parce que le grand débat n'est pas terminé, que je ne sais pas ce que veulent les Français. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura des réponses fortes aux demandes des Français qui sortiront du grand débat.
Alors, revenons aux élections européennes. Nathalie Loiseau, serez-vous tête de liste d'En Marche en mai prochain ?
Je suis là où je suis utile. Aujourd'hui, j'espère être utile dans ce que je fais et demain, j'irai là où je serai utile.
Nathalie Loiseau au grand jury cet après-midi. Vincent Derosier, alors on va essayer d'y voir clair dans cette histoire. Il y a quelques jours, on nous disait qu'un référendum le 26 mai, c'était impossible. Pas assez de temps pour l'organiser. Finalement, ce serait peut-être possible. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de l'exécutif, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Bref, c'est pas simple.
Oui, c'est même très compliqué, hein, puisque les différents ministres ne sont pas d'accord entre eux, en tout cas sur la date de ce référendum. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ou Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, sont plutôt favorables à une consultation le 26 mai, ce qui veut dire que les Français voteraient pour les européennes et diraient en même temps s'ils sont favorables au vote blanc ou à la baisse du nombre de parlementaires. Et puis, il y a les autres au gouvernement. Vous avez entendu Nathalie Loiseau, elle n'est pas très partante parce qu'elle a peur qu'on ne parle plus d'Europe et sa position est loin d'être isolée dans la majorité. Enfin, il y a des ministres carrément sceptiques sur la faisabilité même d'un référendum en si peu de temps. C'est impossible, on manque de temps, confie même un ministre influent à RTL. Les constitutionnalistes, eux, sont très réservés. Il y a, selon eux, au minimum 8 à 10 semaines incompressibles. Ce soir, l'Élysée temporise, aucune décision n'est prise, confie un proche. Mais si Emmanuel Macron veut son référendum fin mai, il va devoir prendre sa décision très vite. Et c'est peut-être pour ça qu'il va rencontrer la semaine prochaine à l'Élysée les présidents des différents groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat.
Merci Vincent Derosier du service politique de RTL. Quant à Laurent Wauquiez, le président des Républicains, il a affirmé aujourd'hui que quelle que soit la date choisie, Emmanuel Macron prendra, je cite, un grand risque s'il organise un référendum portant sur des sujets coupés des préoccupations et des priorités des Français. Nathalie Loiseau, la ministre, parlait à l'instant du grand débat auquel participent les Français. Près de 4000 réunions enregistrées, Tout le week-end, des dizaines de tables rondes avaient lieu dans des mairies, des salles municipales, notamment à Trappes, dans les Yvelines. La ministre Agnès Buzyn a participé ce matin à l'un de ces débats consacrés à la santé.
Dans la salle Pablo Picasso, il y a tellement de monde qu'il est difficile de se faufiler, de la buée s'est même formée sur les vitres. La ministre de la Santé arrive.
S'il vous plaît, un peu de silence.
Et c'est au rapporteur de la première table de débat de prendre la parole.
Il faut développer la santé comme une excellence française. Il vous propose, Madame la ministre, un objectif. C'est de se dire que 80% des Français pourront avoir un rendez-vous chez un médecin spécialisé en moins d'un mois. C'est du concret.
L'atmosphère est studieuse et la ministre est ici pour expliquer son action.
J'ai mis un comité de suivi avec des indicateurs. Et dans les indicateurs, c'est justement le temps qu'il faut pour trouver soit un médecin généraliste, soit un médecin spécialiste. Je vais les rendre publics parce que je veux que les citoyens puissent juger de mon action.
Un autre participant prend le micro.
Il faut absolument trouver une solution pour avoir suffisamment de médecins qui répondent à un besoin, parce que le besoin, il existe. C'est pas en faisant avec peu de médecins qu'on va résoudre tous les problèmes. On tombe tous malades, il n'y en a pas un qui fait l'exception.
La ministre répond quelques minutes plus tard.
Il faut supprimer le numerus clausus, on le supprime. Mais il ne faut pas rêver, il faut entre 10 et 15 ans pour former un généraliste ou un spécialiste. Entre-temps, il faut s'organiser et mon pari, c'est qu'il faut redonner du temps aux médecins.
Après plus de 2 heures d'échange, le débat est désormais clos, mais certains l'assurent, ce n'est qu'un premier pour eux, bien décidés à faire remonter encore leurs idées.
C'était un reportage d'Arnaud Touche à Trappes dans les Yvelines. À Nantes, un policier de la BAC est en garde à vue la nuit dernière alors qu'il n'était pas en service. Il a blessé un homme avec un couteau lors d'une bagarre en pleine rue. Au total, 5 personnes sont interrogées dans cette affaire. La mort de Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, jeune militant communiste torturé et tué par l'armée française en 1957 en Algérie. Elle avait 87 ans. Emmanuel Macron lui avait rendu visite en septembre dernier pour lui demander pardon au nom de la France.
Philippe Robuchon.
RTL dimanche soir.
C'est théoriquement ce soir que prend fin l'ultimatum adressé à Nicolas Maduro, le président du Venezuela. 6 pays de l'Union européenne, dont la France, lui ont demandé d'organiser des élections pour mettre fin à la crise. Faute de quoi, ils reconnaîtront son adversaire autoproclamé, Juan Guaido. Nathalie Loiseau, d'ailleurs, la ministre, l'a rappelé tout à l'heure au grand jury. En attendant la réunion du groupe de contact le 7 février, ces pressions sur Maduro, ainsi que celles des États-Unis et d'une soixantaine de pays dans le monde, sont perçus comme un atout de plus chez les partisans de Juan Guaido. Sinamir, l'envoyé spécial de RTL au Venezuela, a pu le vérifier cet après-midi à la sortie d'une messe dans le centre-ville de Caracas.
Habituel pour un dimanche dans ce pays très croyant, les habitants du petit quartier de Chacao, acquis à l'opposant Juan Guaido, sont venus spontanément prier, nombreux dans ce temps de trouble pour le Venezuela.
La farsa por parte del gobierno.
Ce qu'a fait Maduro hier est une farce. Il a monnayé le déplacement de Vénézuéliens de tout le pays pour le soutenir. Les gens réclament un changement parce que tout cela est devenu insupportable.
Alors contre les colonnes de la petite église fraîchement repeinte, ils sont quelques dizaines d'enfants et de retraités comme Marbella à guetter l'arrivée possible de Juan Guaido.
Il est venu ici le week-end dernier. Mes voisins m'ont dit que j'aurais peut-être ma chance.
Cette Vénézuélienne, descendante d'une famille espagnole, souhaite remercier la communauté européenne de son soutien. Un pas de plus, dit-elle, même s'il est loin de changer la donne à son avis.
Je ne pense pas que Maduro va accepter de nouvelles élections présidentielles. Il a encore le soutien de la Russie, de la Chine, de Cuba.
Voilà pourquoi, après l'Europe, c'est vers Pékin que Juan Guaido regarde désormais. Hier, dans un entretien avec la presse chinoise, il a tendu la main au principal créancier du Venezuela, affirmant vouloir honorer les accords déjà existants avec Pékin.
Un reportage de Sinamir et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL au Venezuela. Retour en France avec une tradition. À 3 semaines de la cérémonie des Césars, les nommés se sont réunis pour déjeuner aujourd'hui. Acteurs, actrices, réalisateurs, techniciens, ils sont 177 au total. C'était une sorte de répétition. On a vu Sandrine Kiberlin, Leïla Bekti, Élodie Bouchèze ou encore Alex Lutz. Sans oublier celui qui, avec 10 nominations, fait office de grand favori, Gilles Lellouche, le réalisateur du film Le Grand Bain, nommé par ailleurs pour le meilleur second rôle dans Pupille de Jeanne Herry. Stéphane Bout pour RTL a demandé à Gilles Lellouche s'il croyait à ses chances.
Oh là là, vous savez, comme je suis très superstitieux, j'ai pas envie de penser à ça parce que je me dis que si j'y pense, ça veut dire que ça va pas arriver. Mais en même temps, si ça arrive, du coup, je vais être dans la merde parce que j'aurais rien préparé. Donc vous voyez, je suis dans une espèce d'expectative joyeuse, mais je me fais pas de plan sur la comète. Je suis très heureux de toutes ces nominations que je trouvais être une magnifique caresse de ce métier. La plus belle qu'on m'ait faite jusque-là. J'ai eu une caresse du public, de la critique, maintenant de mon métier. Tout va très bien. On verra en temps et en heure. S'il y a, c'est génial. S'il n'y a pas, c'est pas grave. La fête ne sera pas gâchée non plus. C'est-à-dire que les autres années vont me sembler bien fades. Voilà, donc faut bien que j'en profite. Là. Il me reste 3 semaines à profiter de ce statut un peu inédit, j'en profite.
Gilles Lellouche, le comédien réalisateur au micro RTL de Stéphane Boutsock. Football, je vous rappelle le résultat de cet après-midi en Ligue 1, match nul 1 partout entre Nîmes et Montpellier. Ce soir, autre rencontre sous tension, elle se déroulera au Groupama Stadium de Décines près de Lyon. C'est bien sûr le choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Au classement, 16 points séparent les deux équipes, Lyon est 3e derrière Lille, loin du PSG. Pour autant, Willy Maisonnas, chez Lyon-PSG, c'est toujours un grand moment. La rivalité entre les deux clubs est forte. Les Lyonnais vont vouloir effacer l'humiliation de 5-0 au match aller.
Ah oui, voilà sans conteste l'affiche la plus excitante que la Ligue 1 et sportivement à nous offrir, avec du génie ici dans les deux camps. Alors bien sûr, en France, Paris écrase tous ses adversaires sur une saison, mais sur un match, le gardien du PSG, Alphonse Areola, s'y prépare. La bagarre se veut toujours furieuse et toujours indécise face à Lyon.
Des concurrents les plus difficiles chaque année. Ils ont beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Voilà, c'est pas un match à prendre avec des petites pincettes.
D'autant que l'OL de Bruno Genesio a forcément un peu plus d'ambition, un peu plus d'idées en l'absence du phénomène. Neymar, bien sûr, mais vous l'aviez deviné.
Non, ça, je veux même pas l'entendre. Il n'y a pas Neymar, il y a quand même Cavani, Di Maria, Mbappé. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas Neymar que... C'est une équipe qui est moins forte.
Cette armada de Kylian Mbappé, l'immense danger, l'homme qui en avait mis 4 à Lyon au match aller.
On va bien serrer, voilà.
Nabil Fekir, des sourires et sûrement pas de complexe.
C'est possible, on l'a déjà fait. Maintenant, c'est une grande équipe. On sait qu'à la moindre erreur, on peut la payer cash. Mais voilà, tout le monde est prêt.
Comme l'enceinte du Parc OL qui s'annonce avec plus de 57 000 spectateurs ce soir. Belle, bruyante. Sans surprise, à guichet fermé.
Willy Maisonnas, qui vous fera vivre ce Lyon-PSG sur RTL en compagnie de Philippe Sanfourche, coup d'envoi 21h. On en reparle dans RTL en direct de l'équipe à partir de 19h30 et bien sûr dans Soir de Ligue 1 jusqu'à 23h. Autre affiche qui va attirer les foules outre-Atlantique, celle-là, 180 pays vont retransmettre la nuit prochaine le Super Bowl, l'événement sportif le plus attendu de l'année par les Américains. L'affiche oppose cette fois les New England Patriots aux Los Angeles Rams. L'Amérique prévoit de vendre ce soir, tenez-vous bien, plus de 51 millions de packs de bière. Événement qui, cette année encore, va battre tous les records de spots publicitaires aux États-Unis pour RTL. Philippe Corbet.
Ouais, 175 000 dollars par seconde d'espace publicitaire. Le prix a presque doublé en 10 ans. Même si les audiences se tassent, le Super Bowl reste le record de l'année. Plus de 100 millions de téléspectateurs.
Hello, Harrison Ford.
On verra donc ce soir Harrison Ford grognon découvrir un appareil connecté Amazon. Il déteste déjà ça.
Michael.
Le crooner Michael Bublé, assis par terre dans une supérette, corrigeait au feutre les canettes d'eau gazeuse de la marque Bubbly. Il remplace le Y par un E, accent aigu, comme son nom, Bublé. Il y a beaucoup de campagnes pour des marques de bière, comme celle-ci, où Sarah Jessica Parker reprend son rôle d'élégante sophistiquée dans Sex and the City. Hello. Elle entre dans un bar chic, le serveur lui propose son cocktail habituel.
Cosmopolitan.
No, tonight I'll have a Stella Artois.
Mais elle préfère une pinte de Stella Artois. Stupeur et panique dans le restaurant. Les grandes marques payent souvent des millions de dollars à des célébrités pour apparaître dans leur pub de Super Bowl.
Thank you.
Voilà, le Super Bowl la nuit prochaine aux États-Unis. On revient en France avec la météo. Rebonsoir Valérie Quintin.
Rebonsoir.
Moins 8 degrés demain matin à Aurillac. Ça va piquer.
Ah oui, ça picote un petit peu, c'est vrai. On aura moins 6 à Rodez, moins 5 degrés à Saint-Étienne, moins 4 à Chambéry, à Clermont-Ferrand, moins 3 degrés à Mont-de-Marsan, à Limoges, 0 dans Paris, avec un ciel qui sera généralement assez clair demain matin, ce qui explique un petit peu ce froid, mais assez rapidement une dégradation va arriver par la Bretagne avec des pluies assez soutenues d'ailleurs sur le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan. À l'avant de tout cela, la matinée sera relativement bien ensoleillée. Puis dans l'après-midi, forcément, cette dégradation avancera en perdant un petit peu de son intensité. Donc les pluies ne devraient pas être trop fortes en principe. Elles concerneront surtout le nord-ouest. On aura surtout de la grisaille entre les Ardennes et les Pyrénées. Et puis du soleil sur le flanc est, où quand même il y aura toujours un risque d'avalanche assez sévère dans les Alpes, puisqu'il y a eu beaucoup de neige tout au long du week-end. Les températures demain après-midi, elles seront basses forcément. 3 degrés à Paris et à Lille, 4 à Reims, 5 à Strasbourg, 8 à Bordeaux,
11 à Brest et 15 à Nice.
Alors donc demain, théoriquement dernier jour de froid, pour le reste de la semaine, un peu plus de douceur.
Oui, je dis pas qu'il fera beau, je dis qu'il fera moins froid, on est bien d'accord. Mardi et mercredi, moyenne de température pour la moitié nord 9 degrés, 12 pour la moitié sud, avec du soleil dans l'est et dans le sud du pays, ce qui implique donc les régions méditerranéennes, mais aussi les régions pyrénéennes. Ce sera nuageux, faiblement pluvieux sur le nord et sur l'ouest du pays toute la journée, sans gros mauvais temps, mais franchement, on n'y verra pas le soleil. Jeudi et vendredi, on a une dégradation qui va traverser le pays sur ces deux jours assez rapidement, en n'apportant pas beaucoup de pluie. Avant et après, ce sera plutôt ensoleillé, donc pas mal. 10 à 13 degrés pour la moyenne de température. Une douceur qu'on va garder aussi le week-end prochain, mais toujours avec de la grisaille et un petit peu de pluie.
On a pris note. Merci Valérie Quintin pour ces météos détaillées. Il est 18h20 sur RTL. Dans un instant, l'invité de ce journal, Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne. Avec lui, on va parler de ce nouveau scandale sanitaire à base de viande de bœuf polonais.
Philippe Robuchon.
RTL dimanche soir.
Invité de RTL dimanche soir, Laurent Pinatel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Vous êtes chez vous, je crois, dans votre ferme de Saint-Genette, près de Saint-Étienne, sous la neige,
ouais.
J'imagine.
Sous la neige, oui, ouais. Ça n'arrête pas depuis deux jours, là, oui.
Bon, alors on ne vous appelle pas pour parler météo, mais pour revenir sur le dernier scandale sanitaire. 2,7 tonnes de bœuf polonais écoulé en Europe, de la viande frauduleuse qui n'a pas été contrôlée alors qu'elle provient de bêtes malades. Monsieur Pinatel, toute la viande importée en France a été repérée. Le problème, c'est qu'elle a parfois été mélangée à d'autres viandes, ce qui va rendre compliquer son retrait du marché. J'imagine que cette affaire vous met en colère.
Bah oui, il y a de quoi être en colère, parce que quand on voit les contrôles qu'on subit sur les fermes, que les paysans et les paysannes subissent, quand on voit la traçabilité qu'on nous impose à tout à fait juste raison, hein, et en fait on s'aperçoit que dès que les animaux partent de nos fermes, c'est le bordel en fait. Moi ça me... Ouais, à la Confédération paysanne, ça nous met un peu en rogne, parce qu'on s'aperçoit que tous les efforts qui sont demandés aux paysans, ils sont lourds quand même, ces efforts-là, que tous les contrôles qu'on subit, il y a des contrôles qui sont extrêmement oppressants. Il y a des gens qui déboulent dans les fermes pour exercer leur métier de contrôleur. Ça, on va pas critiquer les contrôleurs, mais le contrôle même est très, très, très oppressant chez les paysans et les paysannes. Il y a eu des drames très récemment dans les années passées. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, dans l'agroalimentaire, c'est tout et n'importe quoi, quoi. Il y a cette viande qui vient de l'autre bout de l'Europe, d'animaux malades, qui, bon, visiblement, ne va pas porter atteinte à la santé humaine, mais on se dit on est quand même dans un système de dingue, quoi.
Ce qui veut dire que les contrôles, manifestement, ne sont pas les mêmes partout en Europe, notamment en Pologne.
Bah, les contrôles ne sont pas les mêmes partout en Europe, ça c'est clair. Visiblement, les services vétérinaires polonais sont beaucoup plus laxistes que sont les services vétérinaires français. Nous, on s'interroge quand même, hein, sur le fait que l'agroalimentaire, c'est toujours par eux que viennent les scandales. C'est jamais à la production, c'est toujours dans la transformation. On se rappelle de la salmonelle il y a quelques temps dans un grand groupe français. On se rappelle aussi des lasagnes avec la base de cheval. Voilà, c'est chaque fois, les industriels de l'agroalimentaire qui portent atteinte à la filière. Et en portant atteinte à la filière, ils prennent le risque de porter atteinte à la santé des consommateurs et à l'image et aux revenus des paysans et des paysannes.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus concrètement, à part s'en prendre à l'industrie agroalimentaire ? Prévoir des sanctions plus lourdes pour les contrevenants, pour ceux qui se font pincer ?
Oui, il y a l'histoire des sanctions et puis il y a l'histoire d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à ce qu'en France, il y a des gens qui aient acheté de la viande avariée en Pologne.
Pas avariée. Elle n'a pas été contrôlée.
Elle n'a pas été contrôlée.
Voilà, elle n'est pas avariée.
Donc cette viande-là, on est allé la chercher parce qu'elle n'était pas chère. Et comment ça se fait alors qu'on a trop de viande en France qu'on va chercher de la viande en Pologne ? Ça veut dire qu'il faut réinterroger le modèle de développement économique de l'Union européenne. Nous, il nous semble aujourd'hui que cette Europe-là, elle n'est pas durable. On pense que pour protéger les producteurs et les productrices français, il faudra instaurer une notion de prix minimum d'entrée, par exemple, à l'entrée du territoire français. C'est pas remettre des barrières tarifaires ou des barrières douanières, c'est simplement se dire, il n'y a pas un seul produit qui rentre en France s'il n'est pas à un prix égal à la production française. Ça éviterait cette surenchère au bas coût et d'aller chercher, de faire des bons coups sur le marché européen, quoi.
Laurent Pinatel, Christiane Lambert de la FNSEA a dit hier que les consommateurs français avaient une part de responsabilité. En gros, elle dit, s'ils achetaient tous de la viande française, ça n'arriverait pas. Vous êtes de son avis ?
Non, mais ça c'est n'importe quoi. On ne peut pas toujours stigmatiser le consommateur. Le consommateur, il achète ce qu'on lui vend. Je pense qu'il faut l'imaginer comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens dans ce pays. Il faut arrêter d'être sur sa planète. Il y a des gens qui vivent dans ce pays et qui ne mangent que parce qu'il y a la banque alimentaire. Il y a vraiment un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Enfin, on est dimanche, hier c'était samedi. Il y a quand même des épisodes qui se passent les samedis qui sont là pour rappeler qu'il y a des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc stigmatiser le consommateur, à notre avis, à la Confédération Paysanne, c'est se tromper de cible. Il faudrait vraiment avoir des politiques publiques qui permettent à tous les consommateurs d'acheter de la viande de qualité. Ça veut dire qu'il faudra accompagner les transitions agricoles, il faudra accompagner le développement d'un modèle avec des animaux engraissés plutôt à l'herbe, et puis surtout arrêter ces échanges internationaux qui n'ont plus de sens, quoi.
Oui, Monsieur Pinatel, au-delà de cette affaire de viande polonaise, vous êtes l'un de ceux qui a souvent mis en avant la difficulté, le mal de vivre des agriculteurs français, notamment des éleveurs. Est-ce que ce sont des sujets que vous pourriez évoquer, par exemple, en participant au grand débat ?
Alors, la Confédération paysanne se prononcera vendredi prochain pour savoir si elle rejoint le grand débat. Donc, je ne veux pas me prononcer ce soir. Ce qui est clair, c'est que le mal-être dans les campagnes, les suicides, on en parle de façon systématique, mais on en parle tellement des suicides dans le monde agricole que c'est devenu banal et on en perd la finalité. Enfin, des gens qui essayent d'attenter à leur vie, moi j'ai des exemples très précis en tête, il y en a tout proche de chez nous, tout proche de tous les paysans, et ça, c'est pas durable. Ça veut dire que le système dans lequel est inscrit aujourd'hui l'agriculture française, il agresse les paysans et les paysannes. Et c'est pas en tenant le discours que tient Didier Guillaume, où il nous dit grosso modo « mais si, il y a qu'à dire que tout va bien et ça ira bien », non, on n'est pas là-dedans. Il faut changer le système pour que ça aille mieux.
Didier Guillaume, je le précise, le ministre de l'Agriculture. Merci Laurent Pinatel d'avoir été invité dans RTL dimanche soir. Bonne soirée, messieurs.
Bonne soirée.
Il est 18h28, dans un instant, les titres de l'actualité de ce dimanche. Et puis juste après, comme d'habitude, le MacPol, là tout de suite.
18h-19h30, RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Et à presque 18h30, les titres de l'info de ce dimanche soir. Avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Plusieurs hommages après la mort de Josette Audin, 87 ans, celle qui avait consacré sa vie à rétablir la vérité. Emmanuel Macron lui avait demandé pardon en septembre dernier et reconnu la responsabilité de la France dans la mort de son mari Maurice Audin, torturé en Algérie. Emmanuel Macron en banlieue parisienne. Demain, pour la suite du grand débat national, le chef de l'État envisage un référendum à l'issue de cette grande consultation en même temps que les élections européennes. Il n'a pas encore pris sa décision, assure Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Elle était l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Les Émirats Arabes Unis accueillent le pape François, premier chef de l'Église catholique, à fouler le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam, pour une visite consacrée au dialogue interreligieux. La France confirme son ultimatum à Nicolas Maduro. Si le président contesté du Venezuela n'annonce pas des nouvelles élections présidentielles avant ce soir, Paris reconnaîtra le pouvoir de son opposant, le président autoproclamé Juan Guaido. En football, Lyon-PSG, ce soir au programme de soir de Ligue 1. Tout à l'heure dans le derby entre Nîmes et Montpellier, les Crocodiles du Gard ont arraché le match nul, un partout. Le temps pour demain, nouvelle dégradation par l'ouest. Un peu de neige entre le nord, l'Île-de-France et le centre. Des pluies dans le sud-ouest et puis du soleil au bord de la Méditerranée. Les températures pour demain après-midi, 4 degrés à Saint-Étienne et à Orléans, 5 à Grenoble et à Paris, 6 degrés à Lyon, 11 à Bordeaux, 12 à Biarritz et à Montpellier, 15 à Nice. Tout de suite, le MacPol avec Philippe Robuchon et Olivier Madrol.